Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ».
J'ai revu récemment un film datant de 1978, un film de Claude Sobral, qui porte pour titre le nom de son héroïne principale, Violette Nozière. L'héroïne étant incarnée par Isabelle Huppert, ses parents par Stéphane Audran et Jean Carmé. Notons au passage que dans le film, si vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir, il y a une brève apparition d'un futur comédien très célèbre, Patrice Lucchini. Alors, qui était Violette Nozière? Il faut dire que, aujourd'hui encore, il est difficile d'avoir une opinion crédible à 100%. Elle est née en 1915, pendant la Première Guerre mondiale, et ses parents avaient quitté Paris, et elle est née dans la Nièvre, à Neuvy plus exactement. Neuvy-sur-Loire. Alors, son père était mécanicien, mais au chemin de fer. Il s'appelait Baptiste. Sa mère a travaillé également un temps pour les chemins de fer, sa mère Germaine. Et après la guerre, le couple est revenu à Paris. Il est revenu à Paris, rue de Madagascar. Un petit appartement, très étroit. Et Violette va commencer son existence. Après avoir été une bonne élève, au lycée, elle va commencer à se montrer paresseuse. Débergondée, sournoise. Elle multiplie les amants. Et puis, comme elle veut mener quand même une vie qu'elle estime lui être due, elle vole ses parents. Elle vole aussi des commerçants du quartier. De temps en temps, eh bien, comme beaucoup de filles à cette époque-là, elles se prostituent. Et en 1932, au hasard d'une visite médicale, on lui révèle qu'elle est syphilitique. Alors, comme elle a honte de ses parents, elle va trouver un médecin qui va lui faire un faux certificat médical, disant que sa syphilis est héréditaire. On arrive alors en 1933. Et en mars de cette année 1933, le 23 mars, elle fait une première tentative d'assassinat de ses parents. Cette tentative échoue. Alors, la même année, le 21 août, elle fait une deuxième tentative d'assassinat. Et cette fois-ci, ça marche à moitié. Ça marche à moitié parce que elle a préparé deux verres, un pour son père, un pour sa mère, Le père boit le verre entier et il meurt. La mère ne boit qu'un demi-verre, elle va s'en tirer après un séjour à l'hôpital. Le 23 août, Violette fait une fausse tentative de suicide avec le gaz. Finalement, elle sera inculpée le 24 août, arrêtée le 28. Et c'est là que l'affaire Violette Nozière commence à occuper tous les médias. Même si 1933, faut-il le rappeler, ce qui se passe en Allemagne a de quoi inquiéter, puisque c'est l'arrivée de Hitler au pouvoir. Mais la presse se déchaîne autour du cas de Violette Nozière. Des films se préparent. Et il faut bien reconnaître qu'elle fait vendre. Elle est détenue à la Petite Roquette. Et des gens de haut niveau s'occupent d'elle. Le commissaire Marcel Guillaume. Le commissaire Marcel Guillaume, c'est lui qui a fait l'enquête sur la bande à Bono, sur Landru, sur l'assassin de Paul Doumer. Et très bizarrement, parce qu'il a écrit ce qu'il en pensait, il a, lui, apparemment, toujours cru à l'innocence de Violette Nozière. Son avocat, ah ben c'est celui de Raoul Villain qui a assassiné Jean Jaurès. Celui qui a aussi défendu l'assassin de Paul Doumer. Ce qui est bizarre, c'est que dans ce tollé médiatique, les surréalistes, amenés par André Breton, vont déchaîner une campagne phénoménale en faveur de Violette Nozière. Parce que Violette Nozière avait affirmé qu'elle avait assassiné son père parce qu'il l'a violée. Et les surréalistes vont prendre défense pour elle. Ils vont éditer une revue, pas en France, mais en Suisse, parce qu'en France, il y a la censure. Et dans cette revue, on trouve des poèmes d'André Breton, de René Char, de Paul Éluard, de Benjamin Perret, avec des illustrations de Salvador Dali, de Yves Tanguy, de Max Ernst, d'Alberto Giacometti, de René Magritte. Signalons aussi que, dans l'Humanité, Aragon va faire paraître un article en faveur de Violette Nozière. Pour donner une idée, dans cette revue, Éluard loue celle qui a osé défaire l'affreux nœud de serpent des liens du sang. Violette rêvait de bains de lait, de belles robes de pain frais, de belles robes de sang pur. Un jour, il n'y aura plus de père dans les jardins de la jeunesse. Est-ce que cette intervention du surréaliste a joué en faveur de Violette Nozière? Difficile à dire. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'inceste n'est pas inscrit sur la liste des crimes. Donc, il était difficile d'évoquer un crime tel que l'inceste, alors que ce dernier n'avait aucune existence légale. Certes, on a retrouvé dans le petit appartement des revues pornographiques. Violette affirme que son père l'obligeait à les lire avant de la violer. Sa mère, au départ, s'est portée partie civile contre sa fille. On n'avait jamais vu ça. Et puis la mère va faire marche arrière. Peut-être savait-elle beaucoup de choses qu'elle ne voulait pas révéler. Alors, sans surprise, Violette Nozière est condamnée à la peine de mort. En fait, à cette époque-là, on n'exécutait plus les femmes condamnées. C'est ainsi que le président de la République a transformé cette peine de mort en prison à perpétuité. C'est la première grâce officielle dont va bénéficier Violette Nozière. Et elle va être internée à Haguenau, d'abord à Rennes. Et en prison, elle aura une attitude très soumise, obéissante. Ce qui explique sans doute que le maréchal Pétain, en 1942, transforme sa réclusion criminelle à perpétuité en peine de prison de 12 ans. Et c'est ainsi qu'elle va être libérée en 1945. Et c'est là qu'intervient la troisième grâce présidentielle pour Violette Nozière. Le général de Gaulle lève son interdiction de séjour sur la majeure partie du territoire français. Désormais, Violette Nozière peut se déplacer comme elle veut, où elle veut, et n'importe où elle le souhaite. On n'avait jamais vu ça dans les annales judiciaires. Trois grâces présidentielles. Et puis, pour en revenir à ce phénomène. À la demande répétée de André Breton notamment, en 1963, Violette Nozière est réhabilitée. 30 ans après le crime qu'il a amené devant la cour d'assises, aucune mention de son crime ne peut être faite, ni dans les documents officiels, ni dans la presse. Et comme en prison, elle a quand même suivi une formation d'aide comptable. Elle va désormais être face à sa destinée. C'est-à-dire, elle va mener désormais une vie de femme qu'elle n'a jamais pu mener.
Thank you.
En 1946, la vie de Violette Nozière prend un nouveau tournant. Elle se marie. Elle se marie avec Pierre Garnier. Pierre Garnier, qui est divorcé, et apparemment, ils vont mener une vie de couple, une vie familiale parfaitement saine et équilibrée. Ils auront 5 enfants, une fille et 4 garçons. Et ils vont se lancer, ils vont tenir un café-hôtel, puis l'hôtel de la forêt. Malheureusement, Pierre meurt à l'âge de 42 ans, suite à un accident de la circulation en 1961. Et alors, Violette Nozière va s'occuper de ses enfants, devenir une femme semblable à des milliers d'autres femmes. Elle va s'occuper de ses enfants jusqu'à ce qu'en 1963, on décèle chez elle un cancer du sein et sa santé commence à se dégrader jusqu'à la fin prévisible de 26 novembre 1966. Alors, elle va être enterrée à l'endroit où elle est morte, où elle est née, pardon, dans la Nièvre. Elle va rejoindre son père, son mari, avant d'être rejointe 2 ans plus tard par sa mère. Le trio Nozière est enfin réuni dans la paix éternelle du cimetière et de la mort. Cela dit, je pense que le mystère Nozière demeure entier. J'ai déjà dit, le commissaire qui était chargé de l'enquête était persuadé de la sincérité de Violette, persuadé des viols commis par le père. Apparemment, le juge d'instruction a cru lui aussi à la sincérité de l'accusé. Il ne faut pas oublier que lorsque Violette Nozière a été jugée, les membres du jury étaient tous des hommes. Et que il était difficile d'admettre qu'un père de famille, par ailleurs sans problème apparent, ait pu pendant des années commettre ce crime. Ce crime qui, rappelons-le, n'était pas reconnu par le code judiciaire. D'autre part, l'époque a certainement joué dans la décision du tribunal de condamner Violette Nozière à mort. N'oubliez pas que, à l'époque, c'était la montée du nazisme, la montée du fascisme, c'était les gens de droite qui s'élevaient avec force, et souvent avec talent d'ailleurs, contre le relâchement des mœurs, contre la permissivité des parents, contre contre la société telle qu'elle était en train d'évoluer. N'oubliez pas non plus que, à l'époque, on n'est pas très loin du Front populaire, de la montée des revendications de gauche. Et quand des gens comme Aragon, Éluard, André Breton prenaient la défense d'une petite bonne femme que personne sûrement n'aurait remarqué, pour les gens de gauche, cela voulait dire quelque chose. Alors, fallait-il condamner Violette Nozière? Il était pratiquement impossible de la relaxer, étant donné que elle avait quand même, il ne faut pas l'oublier, tué son père et était à deux doigts de tuer sa mère. C'est bizarre quand on y songe. Une fille de travailleur de la SNCF, que tout aurait dû amener vers la tradition de l'époque, c'est-à-dire le mariage, les enfants, l'éducation des enfants, etc., etc., soit devenue un phare, une star. Bien sûr, il n'y avait pas la télévision, mais on peut se demander ce qu'aurait fait la télévision si elle avait existé à l'époque. Elle aurait sûrement fait ses gros titres et ses sous-titres avec Violette Nozière. D'autant plus que, comme toujours, le public était friand de ce genre de choses. On a une photo. On en a plusieurs, mais il y en a une qui me paraît significative. C'est une photo qui a été prise le jour de la reconstitution du crime, qui a été prise devant le portail qui mène, devant la porte, pardon, qui mène à l'appartement des Nozières. Et il y a là une foule compacte qui regarde la porte. À la fenêtre, il y a des gens, à une fenêtre, il y a des gens qui sont penchés sur le balcon. Comme quoi, le crime, quel qu'il soit, attire toujours les foules. Alors, coupable ou innocente, Violette Nozière restera dans les mémoires, surtout pour ce qu'on appellerait aujourd'hui sa reconversion. Elle a su trouver un mari, elle a su aimer ce mari, avoir des enfants avec lui, et lorsque ce mari est mort, elle a su affronter l'arrivée du cancer. Je vous parlais en introduction du film de Claude Chabrol. Ce film reflète bien, à mon avis, la complexité du problème. Car Isabelle Huppert, avec son talent habituel et sa personnalité tout en demi-teinte, montre bien la complexité d'un personnage qui n'a pas fini de nous interroger, quelle que soit la conclusion qu'on estime vraie. Je vous remercie de m'avoir écouté.